France Inter, le 18-20.
Ça a commencé avec le Mediator et puis les pilules de 3e et 4e génération. Au milieu de ça, une campagne de vaccination contre la grippe H1N1 totalement surdimensionnée est venue. La dépakine, aujourd'hui le Levothyrox, des rumeurs sur le vaccin contre l'hépatite B court encore. L'obligation de vacciner du coup laisse une partie de la population sceptique. Mis bout à bout, nous voilà dans un pays qui crie sa suspicion vis-à-vis des médicaments tout en étant l'un de ceux qui en consomment le plus. Perte de confiance dans les médicaments, alors perte de confiance dans la pensée médicale peut-être, et puis franchement, une communication médicale qui souvent impose d'abord et explique après. Alors, le vaccin contre le désamour des Français pour leurs médicaments existe-t-il ? Est-ce que tout cela est contagieux, docteur ? C'est le thème du Téléphone Sonne ce soir.
Fabienne Saint-Es. Le Téléphone Sonne.
Et Catherine, vous êtes la première. Bonsoir à vous, Catherine.
Bonsoir.
Bienvenue sur Inter.
Bonsoir, bon, je me présente, je suis médecin, j'ai 56 ans, je suis depuis 25 ans sous les Levothyrox, l'ancienne formule. Voilà, j'étais très bien équilibrée, j'en oubliais totalement cette maladie, aucun problème clinique, TSH toujours normal. Et donc j'ai eu la nouvelle formule sans avoir été informée, donc j'ai eu des symptômes pendant les vacances, et pendant les vacances je me coupe de l'actualité, donc j'étais pas du tout au courant de l'actualité médiatique, et j'ai compris en rentrant de vacances avec une difficulté à travailler avec une grande fatigue, et donc j'ai pu me procurer assez vite une formule par l'étranger, au Luxembourg entre autres, et en 48 heures les douleurs ont disparu, et en une semaine j'ai retrouvé donc je n'étais pas du tout au courant. Donc on parle de l'effet placebo, j'ai voulu alerter aussi d'ailleurs mes confrères qui des fois doutaient de la réalité de la symptomatologie, d'écouter les patients. J'aurais une question, parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Pourquoi ne pas avoir gardé l'ancien Levothyrox avant de s'assurer de l'efficacité du nouveau et de la bonne tolérance, quand on a un médicament qui a fait ses preuves pendant plus de 25 ans, plus de 30 ans? Pourquoi n'y a-t-il pas eu au préalable donc une évaluation auprès de l'ensemble des patients sous Levothyrox? On a coutume de parler du rapport bénéfice-risque qui doit être favorable, et autrement l'explication de la symptomatologie quand la TSH est normale, ce qui est mon cas et ce qui est le cas chez beaucoup de patients.
Catherine, on a beaucoup évidemment de questions autour de... Je voudrais quand même préciser une chose avec vous. Vous êtes médecin, donc Catherine, on est bien d'accord.
Oui.
Donc vous êtes médecin et vous ne saviez pas, vous médecin, qu'on allait changer la formule.
Non.
Voilà. Je voulais juste préciser ça avec vous parce que moi, les deux bras m'en tombent, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Et merci beaucoup pour votre témoignage parce qu'il est précieux. Pour vous répondre, ce soir, François Chastella, pharmacien des hôpitaux de Paris, ancien président de l'Académie nationale de pharmacie. Sophie Augros est là également. Vous êtes médecin généraliste. Vous êtes présidente du regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants. Christian Saoud, vous êtes l'ancien président d'aide et vous êtes membre de la Haute Autorité de la Santé. Et puis Daniel Messager est là aussi avec nous, évidemment, spécialiste santé à France Inter. François Chaste, je disais franchement, les bras m'en tombent, que Catherine nous dise qu'elle, elle est médecin et qu'elle découvre la nouvelle formule.
Oui,
on se dit que si elle, elle le découvre, alors effectivement, les patients...
Oui, Catherine ne lit pas son courrier. Elle a reçu, à la fin du mois de février... une lettre conjointe de l'Agence du médicament, la ANSM, et du laboratoire Merck, une lettre de 2 pages que j'ai sous les yeux, datée du 27 février.
Catherine, attendez, excusez-moi, monsieur Chaste, puisqu'elle est encore là. Catherine, vous n'avez pas lu votre courrier, Catherine.
Alors, attendez, parce que j'ai eu le laboratoire Merck qui m'a appelé d'ailleurs quand j'ai fait... parce que d'ailleurs, je tiens à remercier quand même le laboratoire Merck qui m'a permis pendant 25 ans de vivre. Le laboratoire Merck, les médecins angiologues n'ont pas été concernés.
D'accord, le courrier, vous l'avez reçu ou pas?
Non, parce que le laboratoire Merck n'a pas... Les médecins angiologues n'ont pas été concernés par ce courrier.
Voilà.
Les cardiologues, souvent, on n'est pas reconnus. Enfin, on est entre deux. On va être spécialiste, mais souvent, il y a beaucoup de choses qu'on ne reçoit pas. Et sinon, effectivement, on reçoit de toute façon énormément de courriers.
Merci beaucoup pour la précision, Catherine. Alors, François Chaste. Donc, normalement, il y a eu un courrier, visiblement. C'est pas toujours ça.
Oui, il y a eu un courrier qui a été adressé aux médecins généralistes, endocrinologues, pédiatres, chirurgiens ORL, gynécologues, obstétriciens, cardiologues, gériatres, aux pharmaciens officinaux et hospitaliers. Donc ça fait à peu près 80 000 courriers qui sont partis de l'ANSM, l'Agence du médicament, et du laboratoire pour expliciter le fait que l'ancienne formule était une formule qui, au moment où on arrivait à la date de péremption, était, comme on peut dire de manière un peu familière, un peu limite en matière de conservation du principe actif. Mmh. C'est-à-dire la durée de péremption de ce médicament, c'est 2 ans. et on arrivait à peine à 95% de conservation du principe actif dans ce médicament lorsqu'il est conservé dans la pharmacie familiale des personnes
atteintes. Et ça, on l'a bien compris depuis le début de cette crise.
Et donc, l'objectif, à la demande de l'Agence du médicament, a été de modifier cette formule pour favoriser une meilleure conservation. Alors, je dois dire que, scientifiquement, personne ne comprend les raisons pour lesquelles une dizaine de milliers de patients sur les 3 millions traités quand même en France ont manifesté des effets indésirables. Nous comprenons ces effets indésirables. Notre devoir de professionnel de santé, c'est bien sûr d'être à l'écoute des patients qui se plaignent. Néanmoins, il n'y a pas d'explication rationnelle de
mais
cette
François
Chast,
situation. Ce que dit cette dame et ce que disent beaucoup de gens qui nous appellent ici au 0145 24 7000, mais aussi sur franceinter.fr, ce qu'ils disent, c'est pas forcément de remettre la médecine en cause, c'est juste que ne sachant pas, c'est extrêmement compliqué. Pardon, moi je suis très béotienne, mais si sur la boîte il y avait marqué nouvelle formule, déjà j'aurais su.
Il y a eu cette information et par exemple un changement de la présentation des boîtes.
La couleur de la boîte. Christian Saout, il y a quand même eu un problème en route. Enfin, je veux dire, encore une fois, on ne remet pas en cause la médecine, mais il y a eu un problème d'information en route. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé.
Il faut regarder par rapport aux autres pays qui ont vécu la même histoire. Il y a des pays où on a effectivement changé l'excipient et où on a informé les patients au travers d'un petit document qui était dans la boîte de médicaments. On a attiré leur attention sur le fait que c'était une nouvelle formule et que s'il y avait une difficulté, il fallait retourner devant leur médecin prescripteur. Et ils l'ont fait. Donc, il faut évidemment informer les prescripteurs, informer les médecins d'une main, et de l'autre côté, informer aussi les citoyens. On a changé de période, on a changé de monde, avec Internet aujourd'hui, les choses peuvent partir très vite, dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Donc, si on veut éviter des difficultés vis-à-vis des produits de santé dans les années qui viennent, il faut tirer tous les enseignements de ça et regarder comment font les autres pays. Et dans les pays où on n'a pas fait d'information en direction des patients, on a eu les mêmes difficultés que celles que nous venons de vivre. Et dans les pays où on a fait cette information, on les a évitées. Donc je pense qu'il faut faire confiance aussi aux populations, il faut faire confiance aux gens, il faut faire confiance aux personnes qui peuvent parfaitement comprendre un certain nombre de choses.
Sophie Augros, c'est important ce que dit Christian Saout, notamment sur l'information des patients et surtout sur leur degré de connaissance désormais, qui n'a rien à voir avec, pardon, vous êtes jeune médecin, vous, vos vénérés confrères ont probablement pas du tout eu le même rapport avec leur patient que celui qui est le vôtre.
En effet, moi, je peux dire que je suis née avec les scandales pharmaceutiques, puisque je finissais mes études quand apparaissait le scandale du Mediator, et depuis, avec les scandales sur les statines, la dépakine, les contraceptions de troisième génération, les vaccins, le lévothyrox. En fait, c'est une nouvelle pratique de la médecine qui se fait avec une communication à créer avec les patients pour prendre en compte leurs attentes, leurs questions quand il s'agit de prescrire un médicament. Maintenant, c'est plus on choisit un médicament pour une pathologie, il faut aussi que le patient soit en accord avec la prescription qu'on met en place. Et c'est ce qu'on développe dans la recherche en médecine générale, dans la thématique qu'on appelle la prise de décision partagée. Et ça, vraiment, c'est le cœur de notre métier, nous qui sommes confrontés en direct avec ces problématiques de tolérance médicamenteuse, mais aussi ces problématiques de buzz médiatique au moment de ces scandales.
On va y revenir sur le buzz médiatique et sur ce que ça provoque. Effectivement, Daniel Messager, très vite, parce qu'on va écouter Siyem dans un
instant.
Très vite,
je crois qu'il faut appeler un chat, il y a eu clairement un problème de communication, voire plusieurs problèmes de communication. Alors, est-ce que les médecins ont bien communiqué auprès de leurs patients? Entre parenthèses, pourquoi y a-t-il autant de patients sous lévothyrox? C'est peut-être un autre débat, mais on est quand même dans un pays où il y a presque 3 millions de personnes qui prennent de lévothyrox.
Tout le monde fait oui avec la tête autour de la table. Pourquoi il y a autant de gens qui prennent de lévothyrox?
Au début des années 2000, il y avait 400 000 patients en France sous lévothyrox. 15 ans plus tard, il y en a près de 3 millions.
Donc ça veut dire qu'on met tout et n'importe quoi. Enfin, on ne met pas tout
alors,
le monde, n'importe qui sous les
lévothyrox. Est-ce qu'il n'y a pas un surdiagnostic et donc un surtraitement? Ce qui veut dire que c'est très compliqué de prévenir et de communiquer auprès de tous ces gens. Ça, c'est le premier problème de communication. Et puis le deuxième, excusez-moi, mais c'est quand même l'ANSM, l'agence du médicament, qui au moment où le buzz commençait à s'installer, aurait dû tout de suite se manifester en disant voilà ce qui se passe, voilà comment on vous explique le problème.
Et pas de panique.
Et puis ça n'a pas été le cas. Il a fallu attendre la ministre de la Santé récemment pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça.
Siyem nous appelle au 01 45 24 7000. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom et je vous écoute.
Oui, c'est
bonsoir.
Très bien.
Super.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Alors, moi, je suis médecin généraliste. J'ai 47 ans. Je fais du libéral depuis environ 14-15 ans.
d'abord en remplaçante et puis maintenant je suis installée depuis une dizaine d'années, donc je vois beaucoup de monde et j'ai vu une très 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 nette évolution des patients avec une espèce de... Alors c'est pas de la défiance en fait, c'est plus de la négociation, c'est-à-dire que maintenant... régulièrement, on a face à nous des patients qui interrogent, qui ont de leur côté leurs propres informations, qui ont leur propre façon de voir la façon dont ils doivent être traités.
Maudit Internet, non, Siam. Maudit Internet.
Ah non, 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 pas du tout. C'est pas du tout maudit Internet. Moi, je trouve ça très bien. Mais je pense qu'on est en train de vivre une période de transition entre une période où les médecins étaient des tout-puissants, des tout-sachants, qui d'ailleurs gardaient parfois jalousement leur savoir et ne partageaient rien, n'expliquaient rien. Et maintenant, une espèce d'extrême. Alors, c'est pas tous les patients. Il y en a qui sont encore très naïfs et qui ne vont pas regarder plus loin que ce que leur dit leur médecin, etc. Mais on est dans une espèce de période, d'époque où les gens se sont appropriés leur santé et les choses concernant leur santé. Et c'est très bien, avec parfois les dérives que ça peut impliquer. Je pense que dans quelques années, on va arriver à un juste milieu où les gens vont s'occuper de leur santé de façon raisonnée, de façon un peu plus intelligente, parce que là, il y a quand même beaucoup... Par exemple, les vaccins, moi, je vois énormément d'enfants. Et alors, il y a aussi, pardon, parce que vous êtes journaliste, mais il y a aussi un traitement de l'information médicale
qui est,
à mon sens, catastrophique. Parce que parfois, même moi, quand je suis vraiment, alors que je me tiens vraiment au courant de tout ce qui se passe, etc., j'entends une nouvelle et je me dis « Ah bon, mais alors j'ai mal compris ». Les vaccins, par exemple, il y a énormément de gens qui ont compris qu'il allait y avoir 11 nouveaux vaccins qui arrivaient de nulle part et qu'on allait imposer ça à leurs enfants. Moi, j'ai plein de mamans qui me disent, j'ai l'air vraiment complètement inquiet, mais bon, qu'est-ce qu'on fait alors avec les vaccins? Je leur dis « Mais les vaccins, on les a déjà faits. Votre enfant, il a déjà eu les 11 vaccins dont on parle. C'est juste qu'avant, il y en avait 3 obligatoires et les autres commandés qui deviennent tous obligatoires. Il y a une gestion de l'information médicale qui n'est pas très bonne. Il y a évidemment les caisses de résonance que constituent les réseaux sociaux et Internet et qui fait qu'il y a une espèce d'émulation. Voilà, les gens existent aussi à travers les symptômes qu'ils décrivent.
La panique, elle s'auto-entretient aussi. Si on veut bien l'auto-entretenir, en tout cas, on sait comment ça marche. On a bien compris, Siam, cette différence que vous décrivez. Je vous voyais approuver, Christian Saoud. C'est vrai qu'on est peut-être à une espèce de croisée des chemins entre l'ancienne et la nouvelle génération des médecins aujourd'hui, et aussi des patients. En fait.
Des patients et de la responsabilité publique. Aujourd'hui, c'est vrai que avec tout ce qu'il y a sur Internet, on peut très vite percevoir et très rapidement des signaux faibles. Et il faut que les administrations de la santé s'accoutument à ça. Il devrait y avoir dans toutes ces administrations de la santé des personnes dont le travail est de regarder ce qui circule un peu sur Internet pour voir ces signaux faibles et s'en emparer très vite.
Mais justement, est-ce qu'il y a un compte Twitter ?
Il faut aussi que la puissance publique, les agences sanitaires apprennent à communiquer sur Internet. On en est encore.
C'est pour ça que je posais la question. Est-ce qu'il y a un compte Twitter, sérieusement, pour l'autorité de la santé, par exemple, quand on commence à voir passer les tweets qui disent je suis sous les Votirox et j'ai des nausées, etc. On répond aussi à ce genre de choses.
On en est au balbutiement. On vient mettre en place le service public d'information en santé qui était prévu par la loi Touraine. Donc c'est les premières étapes, mais on voit bien que c'est tardif, que c'est compliqué. Et puis en plus c'est des vrais choix de politique publique. Ça demande une mise de fond. Donc, il faut savoir si on y va ou si on n'y va pas. Mais il ne faut pas laisser les choses dans un entre-deux. Voilà, je pense que vraiment, tout ce qui se passe là plaide aujourd'hui pour qu'il y ait aussi une information publique qui soit véhiculée sur Internet et pas dans des documents supports. On a parfois aussi des articles de journalistes qui sont très bien faits. Enfin, il y avait 2 pages dans Le Monde daté d'aujourd'hui qui sont remarquables et qui traitent le sujet très très bien. Mais ça veut dire qu'on aurait pu faire ça depuis longtemps, au fond.
François Chasseau, vous vouliez ajouter quelque chose? Et Daniel, juste derrière.
Je pense qu'il faut que les ministres, les responsables administratifs, les directeurs d'agences s'expriment. Mais il faut aussi que le discours des professionnels de santé soit crédible et audible par les patients. Et on ne peut pas mettre tous les scandales dont on a parlé dans le même sac.
Non, c'est évident.
Si vous voulez, il y a eu, par exemple, on l'a évoqué, le drame du sang contaminé. C'était un vrai scandale. On a voulu écouler des lots qui étaient pourris. Le Mediator, c'est un vrai scandale. Il y a eu pendant 35 ans un médicament qui ne servait à rien et qui a créé du malheur, des drames cardiaques chez probablement des milliers de patients. En revanche, Dépakine, c'est un excellent médicament. Il se trouve qu'il devient catastrophique chez la femme enceinte. Et donc, il faut savoir faire la part des choses entre ce qui doit être dit, ce qui peut être clairement compris par les patients qui prennent ce médicament. qu'un épileptique arrête des paquines, ça peut être vraiment une grave erreur en termes sanitaires. Et en revanche, prescrire chez une femme qui risque d'être enceinte, là, il faut mettre le holà.
D'où l'énorme travail d'information qu'il faut faire, qui est aussi le vôtre. Daniel, défendez-vous, Daniel.
Oui, non, mais c'est vrai, quand on dit 11 vaccins obligatoires, moi, j'ai dit dans mes papiers que c'était pas des nouveaux vaccins. Ah ouais. Maintenant, voilà, on entend aussi bien ce qu'on veut parfois et on comprend aussi ce qu'on veut. Là où vous avez raison tout à fait, c'est de ne pas tout mettre dans le même panier. Mediator, c'est un scandale. Quand je lis que la pilule, c'est un nouveau scandale sanitaire, excusez-moi, ça me choque, puisque vous dites effectivement que je traite de la santé depuis plusieurs années. Il est vrai que la pilule peut entraîner des accidents cardiovasculaires, ça on le sait depuis des années, mais de traiter maintenant la pilule à ce point en la jetant aux orties, en disant que c'est un scandale sanitaire, c'est un petit peu choquant. En même temps, il faut entendre les femmes, les nouvelles générations qui disent « moi j'ai plus envie de prendre la pilule pour telle et telle raison ». Et si elles le pensent, c'est qu'elles ont raison. Mais de là à décréter que c'est un scandale sanitaire, non. Et j'entendais ce qui est très intéressant dans le vocabulaire aussi de l'auditrice. Elle parlait de patients naïfs. Il y a encore des patients naïfs. C'est devenu maintenant le patient qui fait confiance à son médecin, un patient naïf, un patient qui fait preuve de naïveté. C'est intéressant la modification du discours aussi à entendre.
Sophie Augros, puis on écoutera Paul dans un instant qui nous attend depuis un bout de temps. Allez-y, bon. Sophie.
J'adhère complètement aux propos qu'a tenu Siem. Je pense qu'on est à peu près de la même génération. En effet, on est dans une volonté de responsabiliser les patients dans leur prise en charge de leur santé. On n'est plus... Même le mot de patient, en fait, ne devrait plus être dit. Ils ne sont pas là pour patienter d'une délivrance médicamenteuse, d'un conseil, d'un diagnostic donné par un médecin, mais ils sont là aussi pour poser des questions, remettre en cause parfois le diagnostic parce qu'il ne correspond pas à ce qu'ils ont ressenti ou à ce qu'ils ont recherché sur Internet ou sur d'autres moteurs d'information. Ça nous pousse, nous, médecins, à développer d'autres compétences que des compétences purement médicales, des compétences de communication, de psychologie des patients. Et c'est ça, je pense, qui fera l'avenir de la médecine.
Et c'est générationnel, ça, Sophie Augros? Vous pensez que c'est plus facile pour vous, effectivement, qui êtes née avec? Est-ce qu'il faut les pousser, les médecins plus vieux, ou est-ce qu'au contraire, tout le monde s'y met?
En fait, je pense que les médecins plus anciens s'y mettent de force, en fait, puisqu'ils sont confrontés à ça, alors que nous, ça commence à rentrer déjà dès notre formation initiale. J'ai eu des cours à la fac sur la prise de décision partagée, sur la gestion de l'incertitude en consultation, sur la psychologie des patients. C'est des choses qui apparaissent dans nos études et c'est des choses qu'on met en pratique dès qu'on commence à exercer.
Et justement, tiens Paul, vous allez exercer bientôt, vous êtes interne en médecine. Bonsoir à vous, bienvenue sur Inter.
Bonsoir.
Et on vous écoute.
Oui, donc moi j'ai voulu réagir par rapport à votre édito et puis ça rejoindra ce qu'a dit notre confrère médecin généraliste par rapport aux problèmes générationnels. Je voulais élargir un petit peu le propos par rapport à l'évothyrox. À mon avis, c'est pas une défiance vis-à-vis de la médecine qui doit être mise en cause, parce que le médecin est là pour soigner et il soigne avec les moyens qu'on lui donne, c'est-à-dire les médicaments. Je pense que le souci est surtout dans la formation des médecins à l'esprit critique par rapport aux médicaments qu'on leur propose. Il faut savoir que les industries pharmaceutiques sont certes très actives, mais publie des articles thérapeutiques pour proposer de nouveaux médicaments, mais ce n'est pas parce qu'un article est publié que le médicament est forcément de bonne qualité. Donc il y a quelque chose qui est mis au point depuis quelques années dans les facultés de médecine, ça s'appelle la lecture critique d'articles, mais c'est encore assez peu développé. Donc c'est ce propos rejoint ce que disait le médecin généraliste tout à l'heure. Les anciens médecins n'étaient pas forcément formés à la lecture critique d'articles médicaux et donc étaient un peu seuls dans leur cabinet en face du prestataire des laboratoires et ils prenaient ça comme vérité absolue. Il faut surtout que les médecins, qui sont les intermédiaires entre le médicament et leur santé et la santé des patients, soient critiques vis-à-vis des médicaments qui leur soient proposés. C'est surtout ça que je voulais souligner.
Merci Paul de l'avoir souligné. Christian Saout, il faut exercer son esprit critique et surtout les médecins savent désormais exercer leur esprit critique.
Non mais tout le monde doit exercer son esprit critique et la difficulté.
Non mais est-ce qu'on a le choix? Moi la question que j'ai envie de poser c'est est-ce qu'on a le choix
Du tout évident quand vous avez une consultation médicale, de la même manière que c'est pas évident pour un médecin de changer de registre et de se dire qu'il n'a pas qu'une compétence scientifique mais aussi une compétence de relations humaines, c'est pas non plus du tout évident pour des patients de dire non, de dire j'ai un doute, de dire j'ai une question à poser. On n'a pas appris ça. Et au fond, ce qui nous arrive avec Internet, c'est qu'on a renversé le système de connaissance. Aujourd'hui, on n'attend pas que la connaissance vienne d'en haut, on va la chercher nous-mêmes. Et avec ça, on essaie de se faire une opinion. Et voilà. Et même les gens les plus aguerris, et ça peut m'arriver à moi, finalement, on m'annonce une décision médicale. Bon, je peux dire oui à quelque chose et rentrer chez moi et me dire, finalement, je n'ai pas très envie. Parce que si je voudrais avoir un autre avis, etc. etc. Donc, je pense que tout ça est devenu beaucoup plus compliqué. On est dans cette période intermédiaire où la connaissance médicale, elle est aujourd'hui très partagée et où même la connaissance scientifique est mise en doute par quelque chose qu'on se raconte de l'un à l'autre. Il n'y a plus, au fond, dans le regard qu'ont les uns et les autres de nos concitoyens, une espèce d'acceptation de la connaissance scientifique comme telle, comme irréfragable. Et on se dit, ben nous aussi, on a des connaissances. Alors, elles ne sont certes pas acquises selon les méthodes de la science, elles sont acquises dans des discussions avec des pairs, avec des voisins, sur un site internet. Et voilà, il faut s'accoutumer à ça et savoir dialoguer aussi dans cet espace-là.
Pardon de la caricature, ça s'appelle la fin de la médecine de papa, en quelque sorte, Sophie Augereau, non ?
Oui, en effet, mais en même temps, comme le disait Christian Saoud, tous les patients ne sont pas prêts. Moi, j'ai l'exemple d'un patient qui me dit, vous, la jeune génération, vous nous remettez face à notre situation, à notre ordonnance, mais c'est pas facile, je préférais encore avoir un vieux médecin où, quand j'arrivais, il savait déjà ce qu'il fallait qu'il me donne avant même que je m'assoie sur la chaise.
Il savait déjà même de quoi j'étais malade.
Exactement, donc c'est pas pour tout le monde, mais ça va changer.
Daniel Messager.
Non, mais vous, Christian Saoud, je m'adresse à vous parce que vous avez été à Aide justement. Aide, ça a été le moment où les patients, ces patients-là qui étaient atteints du VIH, ont pris leur destin en main. Ils ont dit nous, on ne va pas se laisser imposer les laboratoires pharmaceutiques qui nous proposent. Ils ont devancé, ils ont mis en avant. Et ce qui est curieux, c'est que après ce gros mouvement de Aide, ça n'a pas suivi parmi les autres associations de patients. Comme si c'était compliqué de mettre en place toute cette révolte, comme si ces personnes-là étaient portées par quelque chose de particulier, mais ça n'a pas suivi parmi les autres groupes de patients. Et c'est maintenant qu'on voit arriver des scandales à droite, à gauche, qui ne sont pas forcément fondés.
Je ne suis pas sûr, Daniel. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose qui était tout à fait évident. Il suffit d'aller voir le film 120 battements par minute pour le voir. Il y avait une combativité extraordinaire. Mais il y avait aussi, d'abord, une épidémie absolument effrayante qui faisait qu'on écoutait et on entendait. Mais aujourd'hui, par exemple, vous avez des situations assez comparables. Les femmes qui se sont fait implanter un implant est sûr. Elles se sont plaintes pendant plusieurs mois que ça n'allait pas. Elles ont même fait des enquêtes. Et elles sont venues dire, on n'est pas bien, on a des difficultés, on a nos vies qui sont abîmées par les conséquences de ces implants. Et on a dit, au fond, oh bah tout ça n'est pas très grave, non, non. Et on apprend quoi hier? Que finalement, le laboratoire a décidé de retirer l'implant de la vente.
Oui, mais c'est ce que je disais, voilà. C'est relativement récent.
Je pense que c'est qu'on n'écoute pas.
Qui n'écoute pas? Les médecins n'écoutent pas?
Non, je ne parle pas des médecins, je parle des institutions publiques qui sont en charge de la régulation. Elles ont des efforts à faire pour écouter ce que les gens disent et regarder ce qu'ils disent, non pas comme une chance scientifique. Quand on refuse à un groupe de femmes comme ça sur les implants et sur en disant « mais ce que vous dites n'est pas scientifique, il y a des biais ». Mais ce n'est pas ça le sujet. La science, elle se fabrique ailleurs et avec d'autres outils. Ce que disent ces femmes, et quand il y a 6000 femmes qui témoignent d'une difficulté avec un implant, pardonnez-moi, mais on doit l'écouter. Après, ça rentre en débat vis-à-vis. Ça doit faire partie du processus de décision finale. Après, on écoute ce que les gens ont à dire. Ça me paraît extrêmement important. C'est pas à traiter comme des fadaises d'un revers de main. Non, ça fait partie des choses qui existent. Et je pense que ce que nous avons probablement perdu, mais parce que la pression sociale n'est plus là aussi, la pression de l'épidémie qu'on a vécue, Daniel, n'est plus là. Et donc, on fait moins attention. Je pense qu'il faut que...
Enfin, il y avait une littérature aussi, je rejoins ce que dit Daniel, il y avait aussi toute une littérature autour du sida, tous les gens qui étaient atteints, qui savaient en parler, on n'avait jamais autant parlé de sa propre maladie qu'à cette époque-là, ce qui a complètement changé la donne.
C'était une épidémie qui touchait des jeunes.
Oui, absolument. Oui.
Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une épidémie de cancer du poumon. Mais les cancéreux, ils défilent moins. Là, il y avait des jeunes qui étaient dans les médias, qui étaient dans le spectacle, qui étaient dans la communication et qui avaient une capacité à faire passer des messages avec parfois intelligence, parfois violence, et ça a fonctionné. Mais on peut dire que, si vous voulez, il y a eu quand même une douzaine d'années entre les premiers cas en 1981 de sida et les premiers traitements efficaces, en réalité 14 ans, puisqu'il a fallu attendre 1995 pour que les trithérapies arrivent sur le marché et changent radicalement la vie des patients atteints par le VIH.
Mais la connaissance de la maladie était là depuis, on va dire, 84, 5, 6, c'est dans ces années-là que vraiment
14
on a
ans,
su...
une solution thérapeutique.
Je voudrais qu'on écoute Myriam qui nous appelle sur France Inter au 01 45 24 7000. Bonsoir Myriam.
Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Voilà, j'ai réagi quand j'ai entendu la jeune médecin parler de patient naïf. Ça m'a, le terme ne m'a pas plu. Je voulais faire la remarque suivante. Moi, mon médecin généraliste reçoit ses patients toutes les 15 minutes. Les rendez-vous ont lieu toutes les 15 minutes. Je ne vois pas en 15 minutes comment on peut dialoguer, prendre son temps, discuter. On va chez le médecin, il vous annonce les médicaments qu'il va vous donner. Bah écoutez, on repart. Enfin, je me vois pas aller sur internet, chercher, essayer de convaincre si c'est bien, si c'est pas bien.
Moi, mon peut-être que ça dépend de la.
Il est conventionné secteur 1. Il prend des patients toutes les 15 minutes. Alors à ce moment, il faut aller en secteur 2. Payer la peau des fesses pour pouvoir un médecin qui prend son temps avec vous et en plus avoir accès à la connaissance.
Peut-être que ça dépend de la pathologie, non, Myriam? Si vous y allez pour un petit contrôle, tout va bien, c'est différent quand c'est plus grave.
Pour le cholestérol, lévothyrox en particulier, mais ça m'est pratiquement jamais arrivé, grâce à Dieu je n'ai pas eu de maladie très importante, d'avoir à remettre en cause. Mais en plus, quand on a parlé tout à l'heure d'internet, ça m'a choqué, parce que je pense qu'à ce moment-là on fait une nouvelle fracture sociale. Ceux qui peuvent aller sur internet, avoir les capacités intellectuelles pour se renseigner, pour poser des questions, si tant est qu'ils aient le temps de le faire, hein, si je prends l'exemple de mon médecin, on n'a pas vraiment le temps, et on crée encore une nouvelle, je pense, une nouvelle fracture entre les citoyens à ce niveau-là, le fait de cette préconnaissance de ce qu'on peut lire, de savoir l'interpréter, cet aspect n'a pas été traité encore pour le moment, et je pense que c'est pas comment dire. Nous traiter de naïf, ça m'a choqué, quoi.
Alors je sais pas s'il y avait une quelconque méchanceté dans ce terme de naïf. Il y avait quelque chose qui disait, il y a les patients effectivement qui ne posent pas de questions, et puis il y a ceux qui en posent beaucoup, il y a ceux qui n'en posent pas du tout, et ceux qui en posent trop. Et on a bien compris que Myriam, vous étiez au milieu, vous, comme probablement la plupart des patients. Ceci dit, François Chaste, c'est bien ce qu'elle dit, Myriam, aussi effectivement sur la différence d'accès aussi à ce type d'information, la différence de compréhension aussi de ce genre d'information. Et bien sûr, pour certains c'est plus compliqué que pour d'autres,
bien sûr. Mais bon, il faut quand même remettre des choses en perspective. Internet est de plus en plus accessible, y compris à un très grand nombre de patients âgés. Et aujourd'hui, on joue avec Internet, et donc il y a un accès à Internet. Ceci étant, les gens qui ne veulent pas ou qui ne savent pas voyager sur la toile, comme on dit, vont chez leur pharmacien, la consultation est gratuite, ils ont un professionnel de santé aguerri qui peut répondre à des questions et peut-être les aiguiller vers le médecin qui sera le plus à même de répondre à leurs problèmes de soins, de thérapeutique. Et donc, entrer chez son pharmacien, c'est aussi aller vers un professionnel de santé et recevoir des conseils qui peuvent être
Est-ce
extrêmement
que vous ne seriez
pertinents.
Pas en train de prêcher pour votre paroisse par hasard, François Chaste?
Un petit peu, mais c'est une réalité. Il y a aujourd'hui 6 millions de Français qui rentrent tous les jours dans une pharmacie, et je crois que c'est intéressant d'avoir cet accès possible à un professionnel de santé sans rendez-vous.
Christian Saoud, vous vouliez faire une remarque?
Je crois que c'est profondément juste ce que vient de dire François Chaste, et que c'est probablement là aussi quelque chose qui change, c'est un métier qui change. Il ne s'agit plus de délivrer des boîtes de médicaments, il s'agit aussi d'expliquer, de conforter, de répondre. Peut-être que si on avait dit à tous ces patients qui se faisaient délivrer du lévothyrox, qui pouvaient aller sur un site public déclarer les effets secondaires, puisque maintenant il y a y compris de la pharmacovigilance citoyenne, mais qui le sait? On ne serait pas arrivé là si les gens avaient pu comprendre qu'en cas de pépin, on pouvait aussi signaler sur un site internet public la difficulté. Peut-être qu'on ne serait pas arrivé là. Donc cette information donnée par le pharmacien, elle est, me semble-t-il, très importante.
Tiens, et une question sur franceinter.fr. Une remarque, Daniel, allez-y.
Oui, je voulais rebondir sur information et contre-information. Effectivement, quand on est patient, quand on est consommateur, utilisateur, on a évidemment beaucoup de mal à s'y retrouver actuellement. Je prends appui sur une information aujourd'hui où des implants de stérilisation ont été enlevés du marché. Bon, on peut se dire d'un côté c'est bien parce qu'il y avait eu des manifestations désagréables, des effets secondaires désagréables, etc. Mais je lis en même temps un communiqué du planning familial aujourd'hui qui dit mais pourquoi est-ce qu'on n'aura plus ce moyen de contraception définitive, de stérilisation, puisqu'il est très compliqué d'avoir accès en France à une contraception définitive. Donc, information contre information, c'est quand même extrêmement difficile de se situer actuellement
dans ce marché,
entre guillemets.
Mais ce n'est pas le même point de vue qui s'explique. Le point de vue du planning familial, il se comprend parce que cette organisation est à la recherche d'une palette de solutions pour les femmes, parce que quand une solution ne marche pas, on en a une autre, etc. etc. Donc, leur objectif, c'est d'avoir la palette la plus large. Et ce qu'elles expliquent, c'est ça. Nous voulons la palette de solutions la plus large pour convenir aux attentes les plus variées de toutes les femmes. Et ce que disent par ailleurs un certain nombre d'autres femmes, c'est que cette solution-là, pour elles, elle n'a pas été la bonne. Et c'est vrai que ça devient la nécessité de débattre et d'échanger sur toutes ces solutions thérapeutiques.
Sophie Ongros.
Même par exemple, la pilule, le scandale de la pilule de la troisième génération a permis aux femmes de se reposer la question si la contraception qu'elles avaient était la bonne, puisque en France, on est trop prescripteur de pilules. Il y a d'autres moyens de contraception beaucoup plus efficaces, sans moyens, sans effets secondaires comme le stérilet au cuivre, mais qui existe une réticence purement française à l'utilisation de ce type.
Mais vient d'où la réticence? Elle vient du corps médical. Ce sont les médecins qui ne voulaient pas poser ces stérilets
aux
femmes.
Surtout aux femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Mais sauf que nous, enfin, moi, dans mon cabinet, ma collègue, qui faisons quand même beaucoup d'exercices de gynéco, étant en campagne un peu plus reculée, on promeut l'utilisation du stérilet, même aux jeunes filles qui n'ont pas encore eu d'enfants. Et peut-être que c'est un message différent qui va avoir lieu dans les années à venir, mais ça, c'est ce que je disais au début. Ces scandales sanitaires nous font reposer des questions sur notre pratique et de manière, je pense, tout à fait judicieuse.
Alors, une question. On parlait de suspicion tout à l'heure et on voit bien que les choses sont difficiles à remettre en ordre, si je puis dire. Une question qui revient souvent et qui dit, mais c'est une question d'argent uniquement. En changeant de formule, on reparle du Levothyrox, Merck dépose un nouveau brevet, fait donc à nouveau marcher le tiroir caisse pour un brevet qui était tombé dans le domaine public. Il y en a beaucoup des questions comme ça. Qu'est-ce qu'on répond à cet auditeur ?
Oui, alors, bien sûr... Vous savez, dans le monde économique qui nous entoure, des firmes industrielles veulent gagner de l'argent. C'est naturel. Pour autant, dans le cas du Levothyrox, n'exagérons rien. Un mois de traitement par Levothyrox, c'est 1,50€ à 2€. Le mois de traitement.
Mais François Jasque dit, cette question en creux, c'est qu'il y a environ, c'est un sondage qui date de l'année dernière. Donc ça, pour le Figaro, 65-69% des Français soupçonnent les labos de se comporter mal. Il y a quelque chose à faire pour expliquer que oui ou non les labos... Non,
mais alors, si vous voulez, là encore, on ne peut pas généraliser. Il y a des laboratoires gangsters. On a cité le Mediator, je ne vais pas citer le nom du laboratoire parce que je pourrais avoir des ennuis. Mais
il y a des laboratoires gangsters
et il y a des laboratoires qui, quand ils voient un effet indésirable, vont rapidement retirer le médicament du marché. On a, le Mediator, c'est le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Pendant 35 ans, on savait que ce médicament était inutile, qu'il était dangereux, on l'a gardé. En revanche, il y a eu un médicament d'une firme française aussi, comme Servier, qui était un coupe-faim, je vais citer son nom, l'Acomplia. Ce médicament, on s'est aperçu au bout de 2 ans de mise sur le marché qu'il provoquait des tendances suicidaires chez les patients. C'était très difficile chez l'animal de se rendre compte qu'il y a tendance suicidaire dans l'expérimentation animale. On s'en est aperçu et en 2 ans, le médicament a été retiré du marché. Ça a coûté beaucoup d'argent à l'industriel, mais c'était naturel. Donc, de l'argent, il y en a dans l'industrie pharmaceutique. Il y a 30 milliards qui sont en jeu chaque année en France. Mais, je vais vous dire, les vrais scandales de santé publique, c'est pas ceux-là. C'est ceux qui font que un avion se casse la figure tous les jours en France en raison du tabagisme. Le tabac, c'est 200 morts tous les jours dans notre pays. Voilà, c'est-à-dire, en gros, un risque 5 fois plus important que la pilule contraceptive en matière de phlébite et d'embolie pulmonaire. Et il y a 75 000 morts chaque année en France liées au tabac.
J'aimerais bien qu'on entende Nicolas qui nous a appelé au 01 45 24 7000. On vous écoute, Nicolas, allez-y.
Oui, bonsoir. Moi, je vous appelle parce que vous parlez de défiance depuis le début de l'émission. Et nous, avec ma compagne, on a envie de faire vacciner et de faire le rappel pour notre fille. On nous a prescrit un rappel avec de l'Infanrix Tetra. Et puis, alors, je n'étais pas du tout au courant. En 2012, quand on lui a fait le premier appel, elle a 6 ans, ce vaccin était disponible. Et là, un peu d'une surprise, le vaccin n'est pas disponible. Donc, ce qui est disponible, c'est de l'infanterie Hexa, mais qui fait...
Il y a des gens qui vous comprennent autour de la table, Nicolas.
Et puis alors, on nous dit aussi, si indisponible, Repévax et Boostrix. Alors moi, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Hein. J'ai été regardé un peu sur Internet parce que j'étais surpris d'avoir cette réponse comme quoi c'était indisponible. J'ai vu que depuis 2015, visiblement, c'était indisponible. Que les vaccins dont on nous dit qu'ils peuvent le remplacer, en fait, sont des dosages pour adultes. Et puis, visiblement, qu'ils sont pas... qu'ils ont des coûts plus importants et qui seraient plus chers pour l'assurance maladie. Mais... Donc c'est vrai que sans avoir de défiance a priori, on se retrouve parfois à se dire tiens, qu'est-ce qui se passe ?
Sophie Augros, voilà Nicolas qui est tout prêt à vacciner sa fille ou son fils, je me souviens pas, et voilà que ça devient très compliqué.
Alors sur c'est la vaccination, c'est vraiment la problématique de la gestion des stocks de vaccins et de la disponibilité de toutes les valences de vaccination. Et ça, depuis 3 ans, en effet, on est en flux tendu sur les valences qui ne contiennent que 4, enfin sur les vaccins qui ne contiennent que 4 valences de vaccins, l'infanrix tétra, et qui fait que certains parents le veulent pour leurs petits à 2, à 4 mois et à 11 mois, alors que les vaccins recommandés sont avant tout des infanrix hexa, qui contiennent en plus la coqueluche, l'hépatite B et l'hémophilus, ou l'infanrix quinta sans l'hépatite B, mais pour les enfants nés de mères porteuses de l'hépatite B. Donc nous, médecins, la prise de décision partagée, il faut aussi qu'on le gère avec le stock des vaccins disponibles.
Et ce sera le mot de la fin. On aurait pu continuer cette discussion longuement, mais il est temps. Merci à tous d'avoir participé au Téléphone Sonne.